Le diable est le meilleur psychologue du monde entier. Vous aurez aucun autre psychologue qui connaisse aussi finement vos points faibles. Pour savoir quoi manger, comment m'habiller, limite, je devais tirer les cartes ou jouer au pendule, quoi. Et par exemple, j'avais des spasmes qui bougeaient tout seuls, des membres, surtout les jambes qui bougeaient toutes seules aussi. Je m'appelle Alice, j'ai 29 ans, j'habite Paris et je travaille pour l'Église catholique à Paris. Alors, je viens de Nice, donc de la Côte d'Azur, et j'ai grandi dans une famille qui est de tradition chrétienne, catholique de la part de mon père, puisqu'il est d'origine italienne, et un peu orthodoxe du côté de ma maman, puisqu'on descend de la Russie. J'ai grandi dans beaucoup de traditions, beaucoup d'art sacré. J'ai été élevée dans une musique sacrée. J'ai toujours eu l'œil sur les icônes orthodoxes parce que ma grand-mère les écrit. Mais j'ai eu aucune transmission de foi, on m'a jamais expliqué qui était le Christ. Si Dieu existait ou non, d'ailleurs, on ne m'en a jamais parlé. Voilà, donc j'ai baigné dans quelque chose de très chrétien, mais sans qu'une fois on me nomme Dieu. Depuis toujours, il y a eu quelque chose qui m'attirait vers le transcendant, l'absolu. Ça, c'est la force aussi de l'art. J'écoutais de très grandes symphonies ou des litanies de Saint Jean Chrysostome, de Tchaïkovski. Alors, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est juste que j'ai baigné dans cette culture-là. Et le côté absolu me touchait, il y avait beaucoup de pleurs, mais je ne comprenais pas de quoi ça parlait, quel était l'objet de toutes ces symphonies, etc. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de combler cette recherche d'absolu quelque part. Donc je l'ai passé par l'art, donc la musique qui a été vraiment fondamentale pour moi. Ensuite, j'ai dévié vers la philosophie, donc j'ai beaucoup lu de philosophes. J'ai vraiment cherché à comprendre quel était le sens de la vie, pourquoi on était sur Terre. Et ensuite, j'ai commencé mes études supérieures, où là, j'ai tout mis entre parenthèses et j'ai vécu une vie étudiante très dissolue. Donc, j'ai mis de côté tous mes questionnements et ils ont fini par me revenir en boomerang une fois que j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai fini mes études de droit, j'ai trouvé très rapidement un boulot dans un établissement public. Et en fait, en travaillant, en m'installant véritablement, cette quête est revenue, cette recherche de quelque chose est revenue en moi. Et puis j'avais besoin de combler un manque. Voilà, il y avait une immense solitude qui faisait que croître, encore et toujours, et qui n'était jamais résolue. C'était terrible, alors je l'ai comblée aussi avec beaucoup de dépendance, puisque le problème de la solitude, c'est qu'on essaye de la combler avec des choses chimiques. Donc il y a la cigarette, il peut y avoir un peu d'alcool, il y a aussi la dépendance affective à certains amis, à certains garçons. Mais il y avait toujours ce côté, je sais que quelque chose de plus grand que moi existe, il m'appelle, mais je ne sais pas du tout où il est et comment l'atteindre. Et finalement, en travaillant à l'université, donc c'était mon employeur, j'avais une collègue qui était chrétienne et qui ouvertement parlait de sa foi. Donc pour un établissement public, c'était quand même assez osé de sa part. Mais le fait est que petit à petit, elle m'a redonné une certaine connaissance que j'avais eue enfant. Mon deuxième prénom est Marie, parce que dans ma famille, par tradition, on s'appelle Marie, de deuxième prénom. Et donc, elle m'a parlé pour la première fois de la Vierge Marie. Donc, c'était une figure que je connaissais prénom, mais je ne savais pas quelle était son histoire, son origine. Donc, petit à petit, cette collègue m'a mis plein de petites graines dans la tête. Mais encore une fois, je n'étais pas très certaine de savoir comment continuer à développer cette recherche et jusqu'où aller. Et puis finalement, les années passant, ce sentiment, ce mal-être, en fait j'avais un mal-être profond qui s'installait de plus en plus, j'avais fait plusieurs dépressions, j'étais sous médicaments à l'époque, et j'avais un vide immense qui faisait que se creuser, la solitude était de plus en plus pesante, et je me suis rendu compte que ma place, là où j'habitais, le boulot que je faisais, les relations sociales que j'avais ne me correspondaient pas. Et donc j'ai décidé de tout arrêter, ce qui fait que je me suis retrouvée au chômage. Au début ça a été d'un commun accord avec mon employeur, donc j'ai ressenti un énorme soulagement de ne plus être empêchée, de ne plus avoir aucune responsabilité. Et cette oisiveté m'a permis de me poser les vraies questions. Quel est le but de la vie? Quel est le sens? Et pourquoi je suis faite? C'était surtout ça, pourquoi je suis faite dans cette vie? Quelle était ma mission, en gros? Et puisque je n'avais qu'à lire tout ce que je voulais et passer mon temps sur YouTube, en fait, petit à petit, je suis tombée dans beaucoup de propos ésotériques. Donc on commence par des choses très simples, on commence par l'astrologie, parce que c'est quelque chose de très accessible. La quête initiale est toujours, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller? Et je cherche à voir plus grand que moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition de ce plus grand que soi. Donc, je me suis plongée dans l'ésotérisme. Donc, on étudie un peu son profil astrologique pour savoir qui l'on est. Donc, il y a toujours un problème d'identité de soi. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire de sa vie? Donc là, on tombe ensuite dans la cartomancie. Donc, c'est chercher des réponses concrètes à travers des cartes. Donc, le hasard hein, de cartes. À travers le pendule. Donc, l'idée qu'un pendule peut nous guider sur une réponse fermée, oui, non. Et en fait, petit à petit, je me suis complètement enfermée dans ces idées-là. Et surtout, tout à l'heure, je parlais de dépendance affective ou de dépendance chimique à la cigarette. Et en fait, on devient dépendant de l'ésotérisme. Et le terrain psychologique, surtout lorsqu'il est affaibli, puisque à l'époque j'étais en dépression, c'est le terrain favori du diable. Et c'est le terrain sur lequel il vient mettre plein de pansements, comme ça, les uns par-dessus les autres, en nous faisant croire que c'est la bonne solution. Et le diable est le meilleur psychologue du monde entier. Vous aurez aucun autre psychologue qui connaisse aussi finement vos points faibles. Et moi, tout a débuté parce que j'avais beaucoup de traumas, beaucoup de blessures et des failles immenses de dépression, de mal-être. Et là-dessus, cette brèche, il y met, il y comble tout ce que l'on veut entendre. Et toutes les paroles qu'on aimerait un jour qu'on nous dise. Et en fait, on perd complètement l'usage de sa liberté. C'est-à-dire que j'étais devenue incapable, et ça, j'en ai ressenti les séquelles après ma conversion au Christ. J'étais devenue incapable de prendre une simple décision. Pour savoir quoi manger, comment m'habiller, limite, je devais tirer les cartes ou jouer au pendule, quoi. C'était devenu une dépossession de moi-même où j'avais plus d'identité, j'avais perdu toutes mes identités, je n'avais plus aucune volonté propre. Et cette quête d'identité, et justement, quelle est ma grande mission sur Terre, pourquoi je suis là, en fait, j'avais trouvé l'opposé exact, et pourtant, c'est ce qui me comblait à l'époque. C'est le côté, ben, je vais faire ce que les cartes me disent de faire aujourd'hui. Je vais faire ce que le pendule me dit de faire aujourd'hui. Et le propos même de l'ésotérisme est de faire croire que tout est caché et tout est à découvrir et que tout nous ment. Et évidemment, la première institution qui nous ment, c'est l'Église catholique. L'Église catholique nous ment à travers la Bible qu'elle a falsifiée, qu'elle a mal traduite. Elle nous ment à travers les figures chrétiennes, donc... Dans l'ésotérisme, il y a beaucoup de choses qui sont mises en commun. Il y a les chakras, les spiritualités beaucoup plus indiennes avec les vies antérieures, tout ça. Mais il y a aussi des grandes figures chrétiennes qui sont mises au goût du jour. L'archange Michel est souvent invoqué. La Vierge Marie aussi est souvent invoquée. Jésus lui-même est invoqué aussi dans des rituels. Et en fait, on se crée un peu sa propre religion. On accumule plein de théories, plein de spiritualités complètement différentes et qui n'ont rien à voir. On se monte un peu la tête tout seul aussi. Et puis on se crée ses références. Voilà, on se crée vraiment ses références. Et de petites pratiques, même si petite est un peu un euphémisme, mais entre le pendule et la cartomancie, j'ai dévié ensuite sur des choses beaucoup plus fortes. Sur de l'hypnose régressive, donc l'idée qu'on a des vies antérieures et qu'il faut aller chercher en sortant de sa conscience pourquoi est-ce qu'on a tel trauma, pourquoi est-ce qu'on a telle maladie, pourquoi est-ce qu'on a telle difficulté dans la vie. On trouverait ces réponses dans des pseudo-vies antérieures qui n'existent pas. Ensuite, j'ai eu pas mal de pratiques complètement ritualisées où on répète des formules en fait. C'est de la sorcellerie, hein, donc on répète des formules pour essayer d'acquérir quelque chose. Du pouvoir aussi, enfin, c'est très, très très particulier comme méthode de conception de ce qu'est un être humain, puisqu'il est censé s'améliorer, développer des compétences. C'est pour ça qu'on a des gourous dans l'ésotérisme, c'est parce qu'ils développent beaucoup de compétences, et tout ça sur base d'orgueil, c'est-à-dire que c'est l'orgueil qui vraiment nous guide. On est censé être hyper compétent dans la médiumnité, dans l'astrologie, dans plein de trucs. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de sorties astrales, donc de sorties de corps. Donc pareil, c'est cette idée qu'on se met un peu en forme méditative et en forme d'hypnose, et puis on arrive à sortir de soi et à vivre des choses concrètes et réelles, en fait. C'est ça qui est un peu flippant, à l'extérieur de son propre corps. Bref, donc j'ai fait plein de trucs comme ça. Et là où ça commençait vraiment à tourner au vinaigre, c'est que je sentais à l'intérieur de moi, et j'en sens encore de temps en temps en forme de séquelles, des choses qui étaient en moi-même, et par exemple j'avais des spasmes qui bougeaient tout seuls, des membres, surtout les jambes qui bougeaient toutes seules aussi, des voix, très clairement, qui me disaient quoi faire et ne pas quoi faire. Donc là on est sur de la possession, je ne sais pas si un prêtre exorciste serait d'accord au niveau qualificatif, si ça rentre vraiment dans ce que dit l'Église catholique, mais en tout cas moi je l'interprète aujourd'hui comme ça. On est dans une forme de possession, ce qui est vraiment le résultat lent d'une forme de je donne complètement ma liberté et qui je suis à autrui. Et à savoir des démons, parce que si on entend des voix, c'est pas les anges. C'est au contraire les choses démoniaques qui nous susurrent ce qu'on veut entendre. Et donc comme ça, et au fur et à mesure, j'étais au chômage, donc l'oisiveté avait pris de plus en plus d'importance dans ma vie. Et donc on n'a aucune responsabilité, on n'a aucun travail, on n'a pas de dignité, à savoir qu'on travaille pour le bien commun. Donc je m'engluais dans cette oisiveté. J'avais quand même repris des études, mais je ne sais pas du tout où j'allais, j'étais complètement paumée. J'ai fini par ne plus avoir de logement. Donc petit à petit, je me suis complètement isolée aussi, puisque les autres ne nous comprennent pas et nous, on ne comprend pas les autres. Et surtout, on s'enferme dans un orgueil monstre, parce qu'on est persuadé d'avoir la vérité. Et puisqu'on est censé monter en compétence dans toutes ces pratiques, les autres, et ma famille n'étant pas du tout dans ce monde ésotérique et spirituel, et encore moins mes amis à l'époque, les autres ne nous comprennent pas, nous on les comprend pas, et puis j'ai perdu en fait beaucoup beaucoup de personnes comme ça. Heureusement j'ai une famille très aimante, mais je sais que j'ai perdu beaucoup d'amis et beaucoup de relations, de copains quoi, que j'avais, et je me suis retrouvée de plus en plus seule. Alors ce cheminement vraiment ésotérique, je l'ai eu complètement seule. Je l'ai eu complètement seule. Ma chance à moi, c'est que je l'ai eu que de manière digitale et numérique. Je ne suis pas rentrée dans une secte réelle en bas de chez moi. J'ai jamais eu de rencontre face à face avec quelqu'un qui était dans les mêmes mouvances. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on peut y rentrer seul à travers le digital. Il existe des milliers de personnes sur YouTube qui vous racontent ce que vous voulez entendre. Des tirages de cartes, de tout ce que vous voulez, de grandes révélations prophétiques sur l'avenir. Voilà, donc j'ai eu que des rencontres numériques et digitales. Et puis aussi, et ça c'est véridique, aujourd'hui lorsqu'on va à la FNAC et qu'on va dans le rayon spiritualité, moi je me souviens quand j'étais jeune, il y avait la Bible qui était plus ou moins à portée de main. Maintenant la Bible est en bas, donc il faut s'accroupir pour la trouver, parce que ce qu'on voit en tout premier dans l'étalage spirituel, ce sont les sorciers, la cartomancie. Il y a beaucoup de choses sur les pendules, sur la lithothérapie, donc se soigner à travers les pierres, etc. Donc il y a un accès aussi très simple en fait et de consommation courante qui petit à petit permet d'avoir accès et permet d'approfondir aussi ses connaissances. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai repris des études pendant mes 2 années de chômage et à la fin de ces études, d'un coup, d'un seul, j'ai senti que les pratiques que j'avais, surtout la cartomancie, le pendule, etc., n'étaient plus. C'était pas ça, c'était pas bon ce que j'étais en train de faire. Donc, ça, avec le recul, je me dis, c'est la grâce de l'Esprit-Saint qui m'a quand même. Qui m'a dit, chuchoté à l'oreille que ce que je faisais était mauvais. Donc, je l'ai écouté, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté ces formes de pratiques. Et puis, c'est la Vierge, en fait, qui est venue à moi, et surtout Saint-Joseph. Pour l'expliquer un tout petit peu, donc comme je le disais, mon deuxième prénom est Marie. Et pendant cette période de conversion, donc lors de ma reprise d'études, je me suis souvenue de choses que je pensais, auxquelles je rêvais quand j'étais vraiment enfant, quand j'avais 7, 8, 9 ans. Et plusieurs fois, en me couchant le soir, je me disais, plus tard, je serai comme Marie. C'est une phrase que je disais qui m'était totalement naturelle, alors que je n'avais aucune idée de qui était Marie à l'époque. Et au moment de cette reprise d'études et début de cheminement non plus, c'était très flou. Et un jour, j'ai trouvé une neuvaine. Alors, je ne savais pas ce qu'était une neuvaine, mais j'ai trouvé une énorme bougie avec une prière. Je l'ai allumée, c'était une Vierge à l'enfant, et je récitais le temps que la prière la bougie se consume, cette prière. Et en fait, mon grand problème étant la solitude, je demandais à Marie un Joseph. Comme elle avait eu son Joseph, moi, je demandais le mien. Donc, c'était vraiment cette recherche de complétude que je recherchais avec un homme. Donc, encore une fois, il n'y avait pas Dieu dans l'équation. Il y avait un homme. Il fallait que je sois complétée par quelqu'un. Et au fur et à mesure que je priais, je pense qu'elle a fait du bon travail, Joseph aussi. Et j'ai guéri en même temps pas mal de blessures parce que mes parents ont divorcé. Donc, ce côté famille pour moi est une grande blessure que j'ai encore au fond du cœur, et savoir ce qu'est une famille en fait. Ce que sont des parents et des enfants au sein d'un même foyer uni. Et en fait, je me suis sentie adoptée par Joseph et Marie. Enfin, ça a été quelque chose d'assez fort. J'ai eu beaucoup de guérison d'un coup où je pleurais plus sur l'idée du divorce de mes parents. Donc, j'ai eu vraiment un élan vers Marie et Joseph qui a été vraiment profond. Et ensuite, je me suis retrouvée donc chez mon papa à Aix-en-Provence. Et donc, l'école était terminée, donc j'avais fini mon diplôme, j'avais aucune perspective professionnelle, j'avais plus du tout de logement. J'étais accrochée à mon chômage, donc ma seule rémunération, c'était Pôle emploi. Donc, j'étais vraiment plus bas, enfin, au plus bas en termes d'accomplissement de soi, j'en avais aucun. Et puis, au fur et à mesure que je discute avec mon père est croyant, mais n'est pas forcément dans l'Église catholique. Et il me mentionne une série, donc il me dit, mais tu sais, il y a The Chosen, qui est une nouvelle série sur Netflix que tu peux regarder. De toute façon, je n'avais que ça à faire. Et donc, j'ai regardé la série, je l'ai vue d'une traite. Et à travers la série, j'ai découvert qui était Jésus. J'ai pleuré, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et je suis devenue complètement obsédée par qui il était, si c'était vrai, si c'était faux. Et de toute manière, j'avais une telle soif de savoir et de comprendre et de le connaître que je ne pensais qu'à ça. Voilà, c'était du matin au soir, je ne pensais qu'au Christ. Habitant Aix-en-Provence, donc on a le sanctuaire de la Sainte-Baume qui est juste à côté, qui est le sanctuaire de Marie-Madeleine, qui est un endroit familial que l'on connaissait déjà en tant que balade. Mais là, on y est allé et j'y suis allée moi personnellement en essayant de trouver aussi une réponse. Et j'ai rencontré aussi Marie-Madeleine, donc que j'avais vue dans The Chosen et qui m'avait beaucoup parlé du fait de traumas passés et de ce côté rédemption et de graves péchés que l'on commet. Et on est quand même pardonné et aimé par ce fameux Jésus. Et donc ce moment au sanctuaire de la Sainte-Baume a été très fort. J'ai acheté une Bible et un chapelet. Lors de cet achat, j'ai été bénie par le dominicain qui tenait la librairie. Et au moment de sa bénédiction, j'ai eu un fluide immense qui m'est passé dans le corps, qui m'a pris les bras, les avant-bras et qui est sorti. J'ai vraiment senti quelque chose sortir de moi. Ça a été très puissant. Et lorsqu'on est revenu de la Sainte-Baume, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ben, en fait, ça ne me suffit pas. Enfin, là, The Chosen, c'est mignon, le sanctuaire de la Sainte-Baume, c'est sympa, mais il m'en faut plus. Et en discutant avec lui, il m'a dit, ben, écoute, prends des billets, va à Jérusalem. Et je suis partie à Jérusalem comme ça. J'ai pas réfléchi, j'ai pris des billets, j'ai pris deux sacs à dos, un devant, un derrière, et je suis partie, sans aucune attente particulière, parce que je ne savais pas vraiment, à part rencontrer Jésus, ou savoir qui il était, quoi, le connaître, parce qu'il était là, mais sans être là vraiment. Donc je suis partie sans stress, alors que j'ai un gros problème d'angoisse et de crise de panique, donc j'aurais eu toutes les raisons du monde d'être complètement stressée. J'ai trouvé le logement le moins cher, parce qu'Israël est quand même très cher, au Carmel, dans un Carmel. J'avais jamais parlé à une bonne sœur de ma vie, enfin, c'était complètement mais irréaliste. Mais je suis partie à l'aventure et en fait le jour où je suis arrivée à Jérusalem, j'ai été accueillie donc par une carmélite, la sœur hôtelière. Un apaisement complet et total. J'ai rencontré deux personnes, donc deux fidèles laïcs qui viennent de Lyon, qui étaient là en pèlerinage. Et en fait, je me suis un petit peu associée à ce duo. On est devenu un petit trio pendant toute la semaine. J'ai rencontré une communion et surtout une église qui est vivante parce que je comprenais lorsqu'on lisait les évangiles et lorsqu'on était in situ sur les lieux où les choses s'étaient passées, je pense notamment à Gethsémani, ou même sur le mont des Oliviers puisqu'on était au Carmel du Paternoster. Ce que j'avais vu un peu dans The Chosen, ce que j'avais entreaperçu, je le vivais réellement. Et c'est comme si en étant sur le mont des Oliviers, je m'étais associée à Jésus lorsqu'il priait. À Gethsémani, je me suis associée à sa passion. Et en fait, j'ai vécu concrètement ce qui était écrit dans les évangiles et cette rencontre avec le Christ, elle a pris un sens très particulier pour moi parce que je me suis déplacée chez lui, que j'ai été bercée au sein d'un Carmel, donc au sein d'une communauté de l'Église catholique. J'ai parlé qu'avec des catholiques et c'est donc ces deux amis qui m'ont entraînée dans ma toute première adoration. J'ai compris ce qu'était une messe, j'ai compris ce qu'était l'Eucharistie, j'ai compris la mort et la résurrection. En fait, j'ai tout vécu d'un coup en une semaine. Et ça a été fabuleux parce que en étant sur terre et en désirant quelque chose d'au-dessus, et donc du ciel, là j'arrivais à l'identifier, je cherchais ce pont et ce pont je l'ai trouvé quoi. C'était l'Église. Et ça a été ses sacrements. Et ça a été fabuleux et ça a été révolutionnaire. Je suis rentrée en France et là je savais qu'il me manquait qu'une chose, c'était ma confirmation. Donc, bille en tête, je suis rentrée dans ma paroisse de baptême à Nice et j'ai pris rendez-vous avec l'abbé. J'ai dit, bon, écoutez, monsieur l'abbé, je vais me faire confirmer. Voilà, c'est décidé, c'est ainsi. Il m'a dit, non, avant, il faut se confesser. Et là, avec joie, bizarrement, avec joie, je me suis confessée. Ça a été un peu de stress, mais une énorme libération. Et c'est au cours de cette confession que je me suis rendue compte que le baptême que j'avais vécu bébé prenait vraiment un sens un sens tout particulier. C'est comme si j'avais renouvelé quelque part mon baptême ce jour-là. Donc c'était vraiment fabuleux. Le prêtre a été extrêmement gentil, plein de bienveillance et m'a vraiment fait ressentir, c'est-à-dire qu'à travers lui, j'ai vraiment ressenti l'amour et la miséricorde divine. Et à partir de là, j'ai eu des péripéties professionnelles qui m'ont fait peur. Donc je me suis raccrochée à la prière. À la prière, et j'ai découvert ce qu'était l'Église, ce qu'était l'Eucharistie aussi, je l'ai pratiqué à ce moment-là, la première communion, etc. La pleine connaissance de tous les sacrements, de l'adoration aussi, ce qui m'a beaucoup portée. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure sur les quatre possessions que j'avais eues, petit à petit, se sont dénouées au fur et à mesure des confessions. Et j'ai été extrêmement bien accueillie par des prêtres qui, connaissant mon passé, m'ont dit « mais parfois une confession est une communion suffit à faire partir le mal qu'on a en soi. » Et c'est vrai. La prière du Notre Père, qui est la prière fondamentale, mais qui est aussi une prière d'exorcisme, à redire encore et toujours. Un signe de croix, tout simple, mais qui en fait nous permet de nous protéger, surtout lorsqu'on se sent parfois retombé ou qu'on a peur d'être dans des mauvais souvenirs, etc. Et donc en fait, c'est cette Église, ce sont ces ministres ordonnés, ce sont ces fidèles, ce sont ces religieuses, parce qu'après j'ai continué à développer ma foi, à chercher, à aller dans des couvents, à me retirer en monastère, etc. C'est cette Église en fait qui m'a... cette complétude que je cherchais tant, je l'ai trouvée en Jésus, mais je l'ai trouvée en Jésus parce que l'Église me l'a offerte. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est pour ça aujourd'hui que je travaille pour l'Église. Aussi, c'est parce que je lui dois quelque part ma vie.